beaucoup. Alors merci beaucoup à toi Sylvie. Et merci à tous les collègues qui nous reçoivent là, parce que c'est vrai que l'on reconstitue une réflexion qui a commencé il y a longtemps et c'est assez agréable finalement de l'expatrier. Tout ça. Merci aussi d'inviter un antiquisant, parce que c'est pas forcément confortable, c'est vrai. Ça peut être. C'est assez, je dirais, symptomatique de ce qui se passe à la MMSH en particulier, mais d'une manière générale à l'université, de ce que doit être, me semble-t-il, l'université. Et ça, c'est toujours agréable de pouvoir le dire à partir d'un excellent exemple. Dans le retour qu'a présenté Laurent, on voyait bien, tu l'as bien dit, tu avais pensé à une équipe interdisciplinaire, pluridisciplinaire et puis aussi internationale pour traiter ce sujet, et qu'il s'agissait de voir là quelles étaient les différences de tonalité, les approches. C'est pour ça qu'on aboutit à ce livre qui effectivement est épais, très riche, avec des communications qui sont nombreuses. Et j'en recommande la lecture, bien sûr. Moi, j'ai fait un petit peu le contraire. C'est-à-dire que je me suis posé la question. J'ai tenté de sortir un petit peu de ma discipline et de ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de confort méthodologique et disciplinaire. Et je me suis demandé en gros à quoi je servais pour le monde contemporain, à quoi je servais, à quoi servent les antiquisants, pas que les archéologues, hein, tous ceux qui s'intéressent aux vieilles choses, les archaïas, disent les Grecs, et comment on pouvait servir la réflexion contemporaine. Voilà. Donc c'est un peu une démarche inverse. Mais au fond, chacun des participants au colloque, ceux qui ont accepté en tous les cas de sortir un petit peu de leur pré carré, ont tenté de faire des conclusions qui essayaient de poser des généralités qui soient préhensibles par les autres disciplines. Alors, je vais commencer par répondre à tes stimuli, Laurent, parce que j'ai peur d'oublier de. Non pas les stimuli qui sont définitivement. Dans ma tête, mais parce que j'ai des réponses immédiates sur lesquelles je reviendrai en cours d'exposé. Mais, enfin, des réponses, des contributions de réponse. Quand tu dis chacun est fils de ses œuvres dans cette problématique, ça me fait penser à la colonisation et l'évolution qu'a subie la bibliographie sur la colonisation antique dans les 20 dernières années, je dirais. Il y a un très beau manuel d'histoire grecque que nous avons, nous, dans nos générations, lu. C'est l'aventure grecque de Pierre Lévêque. C'est une sorte de Grèce lumineuse, ou celle des Lumières, qui part à la conquête du monde et qui apporte, tels les soldats du monde, l'intelligence et la civilisation au reste du monde. Voilà. Donc on est encore dans une façon, même si Pierre Lévêque est un marxiste convaincu, on est encore dans une colonisation qui est une colonisation issue de notre propre colonisation. C'est-à-dire la représentation qu'on a de la colonisation antique, grecque et romaine, mais pour l'essentiel grecque, donc celle qui pose des problèmes particuliers, parce qu'elle a une dimension ethnique et culturelle forte, on est encore dans la période coloniale, post-coloniale, immédiate, et on se représente l'Antiquité comme une nouvelle modernité de ce point de vue-là. On a maintenant compris que la colonisation grecque, en particulier, même celle qui commence très tôt, au 7e siècle avant Jésus-Christ, est d'abord et avant tout une souffrance. Il n'y a pas que la nostalgie du retour, il y a aussi la douleur, nostalgie, c'est vrai que c'est la douleur du nostos, c'est-à-dire du retour, et aussi la douleur du départ. La documentation épigraphique que nous avons, c'est-à-dire non pas la représentation par des historiens de l'Antiquité du départ des colons grecs vers... les confins, mais véritablement des documentations qui nous restituent la réalité dans toute sa fraîcheur et sa crudité ou sa cruauté institutionnelle, historique et humaine, montrent que, dans la plupart des cas, on choisissait des contingents de garçons de manière autoritaire. Ne partez pas, il veut. On demandait, par exemple, à chaque famille de contribuer d'un garçon, que l'on prenait donc dans sa famille et qu'on ajoutait au contingent colonial. Donc le départ n'était pas nécessairement quelque chose qui était une aventure sympathique et lumineuse, romanesque. On est au courant de toutes les aventures coloniales ou des expéditions coloniales qui ont réussi, mais toutes celles qui se sont ou bien sabordées, ou bien qui ont été massacrées, ou bien qui se sont perdues en mer, on les ignore, bien sûr. Or, il a dû en avoir quand même pas mal. Arriver en terre étrangère, il n'était pas forcément facile de se faire une place. Je passe, hein, parce que je ne voudrais non plus m'appesantir trop longtemps sur cet aspect-là, parce que j'ai d'autres choses à dire. Mais il n'était pas forcément facile de se faire une place dans une terre qui n'était pas celle des Grecs à l'origine. Et on est même au courant d'une expédition coloniale pour la première fondation de Corcyre au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui a échoué. Et les hommes à bord se sont demandé s'il n'était pas opportun de revenir dans la métropole. Chose qui était exclue parce qu'ils étaient au courant de massacres de colons qui, ayant échoué, ont été tués en revenant dans leur propre métropole. Donc c'est un départ conçu comme un départ définitif dès l'origine. Ça fait partie du programme colonial. N'imaginons pas une sorte d'expansion joyeuse et un peu scout, c'est pas du tout ça. C'est une crise agraire qui est à l'origine de tout ça. C'est l'amputation d'une partie du corps social, du corps civique, que l'on expulse et que l'on ne veut plus revoir. Dit comme ça, évidemment, c'est un petit peu moins romanesque et romantique. Alors, à propos de la réinvention de l'autochtonie, j'aime bien le terme de refondation, de réinvention de l'autochtonie. C'est tout à fait vrai pour l'Antiquité, alors on y reviendra pour le cas d'Athènes, parce que Athènes renouvelle, hein, de manière incessante son autochtonie, et n'a aucun problème, parce qu'elle est démocratique, pour intégrer de nouveaux citoyens que l'on déclare du jour au lendemain autochtones, mais sur un plan qui est évidemment sur le plan de l'imaginaire. Je vais essayer pendant mon propos de faire cette distinction-là entre le registre de l'imaginaire, de l'idée qui est de nature plutôt religieuse, qui est une représentation, et puis de la réalité. Et là, vous voyez que la différence est radicale. L'autochtonie, qui est quelque chose normalement d'essentialiste et qui est une qualité intrinsèque aux individus, devient tout d'un coup quelque chose qui peut s'acquérir en quelques secondes lors de la reconnaissance par les pères dans l'œdème et quelques années après la naissance de l'enfant. Donc, entre la représentation et la réalité et la pratique, il y a une différence qui est très forte. Alors, dans le cas de la réinvention de l'autochtonie, dans le cadre colonial, parce que je pense qu'évidemment c'est le bon lieu pour poser ce type de question, dans le cadre colonial, les Grecs se sont ingéniés à reproduire leur métropole dans la terre coloniale, dans la terre qu'ils colonisaient. On a reproduit le paysage. On s'est aperçu que bien souvent les marins partant de Corinthe cherchaient une cité isthmique. Corinthe est marquée dans son paysage immédiat par un isthme. Donc les Corinthiens se sont installés dans des lieux où il y avait un isthme. Et quand il n'y en avait pas, ils l'ont même construit de leurs petites mains. Ce qui montre la puissance de l'imaginaire colonial, l'imaginaire métropolitain, national, dans la dynamique coloniale. On a aussi tenté évidemment d'emporter ce que les Grecs appellent des aphidrumata, c'est-à-dire des objets qui permettaient de refonder le culte en terre étrangère et de donner comme ça une sorte de continuité. Mais on est allé plus loin, et c'est là que je pense que les historiens peuvent être intéressés par ce fait antique-là, les historiens du monde contemporain, c'est que dès la fréquentation des terres qui deviendront ou qui deviennent dès lors coloniales, on projette un passé grec, un passé métropolitain, un passé colonial, sur une terre qui, bien sûr, n'a jamais connu les colons avant leur arrivée. Ça, c'est un problème que l'on s'est posé, parce qu'on s'est demandé s'il n'y avait pas une pré-colonisation à l'âge du bronze, avec des vieux souvenirs. Bon, tout ça est un petit peu abandonné aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas assez de céramique mycénienne, en gros, en Sicile et en Italie, pour parler de ça, surtout en Sicile. Et donc, on se dit plutôt que les premiers colons grecs ont investi le territoire d'un point de vue de l'imaginaire, avec des cultes. Ils ont inventé des pérégrinations, souvent de grands héros comme Diomède ou Héraclès. Et ils ont imaginé que ces gens-là avaient évolué dans ces terres bien avant, et que donc l'arrivée des Grecs était en quelque sorte justifiée par cela. Alors, ma manière de répondre. Alors, pour finir là-dessus, et sans faire appel forcément à des grands mots méchants, il y a dans cette façon de projeter quand même une histoire coloniale dans une terre indigène, qui devient de ce même mouvement indigène, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la reconstruction de l'histoire, et donc d'une réécriture de l'histoire. Si si, pour criminaliser, j'appellerais ça une sorte de révisionnisme. On y reviendra sur ce type d'idée. On va flirter systématiquement, très souvent, je pense, avec ce genre de... Alors, ce que je vais vous proposer, puisque Sylvie l'a dit, j'ai rédigé un petit texte qu'elle a eu la gentillesse de lire, elle l'aura aussi. Je suis devant deux prélecteurs de l'ouvrage, deux experts. Je vais vous lire l'introduction de ce petit livre sur que j'ai intitulé « Donc Chimères autochtones », si vous avez mieux comme titre surpreneur, parce que je ne suis pas complètement convaincu. Et l'objectif était vraiment dans ce petit livre de se saisir du mot « autochtonie » que j'avais rencontré dans la biographie parce que je m'étais intéressé à la déesse dont on va parler un petit peu, la déesse Gaïa ou Gé en grec, trois, selon les régions, on l'appelle de trois mots légèrement différents. Je m'étais intéressé à elle, donc à l'autochtonie des Athéniens et puis... Donc je vais vous parler là un petit peu de tout ce que les recherches qui ont eu lieu sur cette autochtonie, en particulier celle de Nicole Loureau, qui est le grand nom qu'il faut retenir, avec Marcel Letienne aussi, qui a repris l'ensemble de ses arguments et qui l'a poussé vers le contemporain dans une démarche que moi je trouve tout à fait remarquable. Alors, par rapport justement au travail de Marcel Letienne, me semble-t-il que le mien est un petit peu plus, peut-être un petit peu moins militant, tout en n'étant pas dénué d'idées et de direction vers lesquelles je veux aller. Il s'agissait peut-être plus de tisser un rapport direct et analytique avec l'Antiquité que de prendre des positions dans le monde contemporain. C'est-à-dire que je reste dans une position très académique, au fond, qui consiste à dire à quoi, je vous le disais au début, à quoi sert-on, que fait-on et pourquoi continue-t-on à travailler sur l'Antiquité. Alors, ce que je vais faire, c'est vous lire, pour vous planter un petit peu le décor, l'introduction que j'avais faite, parce qu'elle me paraît non pas bonne, mais claire, enfin... Elle montre un peu les directions. Et ensuite, je vous proposerai, peut-être nous séparons de ce long texte, je vous proposerai un petit peu les directions vers lesquelles cette enquête a pu me mener. Alors, les mots patrimoine, c'est ça un petit peu qui m'a guidé au début. Les mots patrimoine, racine, identité sont de plus en plus présents, vous le savez, dans le lexique des argumentaires scientifiques, civiques et nationaux. Ils sont les mots-clés de bon nombre d'émissions de télévision, d'articles de la presse écrite, et ne promeuvent pas seulement la sauvegarde, voire la sacralisation de monuments, de paysages, d'objets, ou même de savoureux aliments du terroir, mais charrient aussi la conservation et la fossilisation de formes, idées ou dogmes socioculturels. Ils ont aussi investi le champ des sciences humaines et sociales, c'est pour ça que étaient nées nos premières discussions là-dessus avec Sylvie. Il est implicitement recommandé, quand on cherche de l'argent en particulier pour faire des sciences humaines, il est implicitement demandé, pour mieux être moderne, de décliner l'identité ethnique ou nationale des sociétés que l'on étudie, d'établir la singularité prétendument irréductible de leur patrimoine matériel et immatériel, ou d'évaluer la profondeur et la solidité des racines qui attachent, pense-t-on, une société et les individus qui la composent à un sol dès l'origine bien circonscrit. Même certaines approches dites réticulaires, qui associent, donc qui réfléchissent à partir du syntagme, à partir du modèle du réseau, qui associent horizon multiculturaliste des théories des échanges et des transferts des biens culturels, s'enracinent, entre guillemets, dans la matière théorique en prenant comme métaphore les plantes rhizomatiques et comme espace d'évolution le sous-sol. Les hommes sont pourtant des animaux, tu l'as vu avec tes collègues du Musée de l'Homme, mais sont bien éloignés, me semble-t-il, beaucoup plus éloignés des minéraux et des végétaux. La métaphore la plus fréquente, on la retrouve très fréquemment, je trouve, enfin exagérément, de l'enracinement est en effet l'arbre. Ce qu'un collègue archéologue italien, il y a plusieurs archéologues qui s'intéressent à ces choses-là, finalement, sans doute, ça force de fouiller la terre qu'on finit par poser des questions sur elle. Un collègue italien qui s'appelle Maurizio Bettini, moque en l'appelant avec une fin de plaisanterie le paradigme métaphorique arboricole, c'est une blague, hein. Il ne se prend pas au sérieux, c'est une blague, et on répète à l'envi avec une sorte de fausse naïveté enfantine que de belles frondaisons et des troncs solides s'obtiennent grâce à de profondes racines. On l'a tous entendu, et en particulier chez Pierre Rabhi. C'est méchant, ça ? Non, pas méchant. Un autre thème est articulé à l'ancrage et à l'autochtonie par la rhétorique contemporaine. celui de la frontière, qui est certes conjoncturellement associé à la crainte des mobilités actuelles en Méditerranée, à vrai dire de la mobilité en soi, mais qui entre en résonance avec la vigueur ancienne et actuelle des discours nationalistes et régionalistes. Le thème de la frontière, sujet classique de nombreux travaux d'histoire et de géographie, connaît aujourd'hui un nouvel épanouissement dans le champ large des sciences humaines et se déploie parallèlement aux réflexions sur la définition juridique, politique, mais aussi culturelle et géographique de l'espace européen. Il fait l'objet de développements dans les programmes des collèges, des lycées, dans les appels d'offres aussi, de colloques ou de financements. Le vote britannique de juin 2016 en faveur de la sortie de l'Europe du Royaume-Uni, comme les atermoiements ou les commentaires précipités qu'il suscite, ou l'effervescence nationaliste ou patriotique en Europe, montrent bien le lien entre les mobilités essentiellement composées de réfugiés, fuyant le malheur et la mort, et les crispations identitaires et territoriales, creusées et sujet d'un débat sur le rapport avec le sol national de la vie patrie. On peut le regretter, mais la globalisation, la mondialisation, ce qu'on peut regretter, c'est la globalisation et la mondialisation, on est bien d'accord, et la crise conjointe du modèle économique libéral interroge de manière impérieuse le rapport entre l'individu et la nation, entre la personne et le sol, le résident et le territoire. L'actualité réveille aussi une notion alternativement problématique ou dogmatique, jamais complètement endormie en France, c'est l'identité nationale, qu'a invité Marcel Deutienne, et restaure pour certains la validité du récit national, en disqualifiant au passage la recherche historienne, si on a le temps on y reviendra à cet aspect-là, vidée de sa substance par la volonté d'établir une galerie de portraits qui livrerait l'essentiel de la culture française en l'occurrence. Parmi les idées qui paraissent autoriser ce déploiement lexical, tellurique et identitaire, on compte en bonne place la notion d'autochtonie, souvent employée ou remployée, comme on l'écrit souvent, on le fait en archéologie, mais rarement remise en question, comme si son sens étymologique, mythique et historique et les valeurs politiques et morales qu'elle porte allaient de soi, s'imposer sans discussion aucune. Cette reconnaissance actuelle du concept d'autochtonie oblige à un retour, me semble-t-il, sans jeu de mots, vers le mot et son sens pour ceux qui l'ont forgé en pays grec ancien et pour ceux qui souhaitent aujourd'hui l'utiliser ou en suspendre l'usage à bon escient. Alors, ce petit texte que je vous présente là, qui devrait être publié bientôt, il n'est pas, sinon je vous l'ai apporté, bien entendu, voudrait précisément être une contribution à la réflexion sur cette notion d'origine antique d'autochtonie. Et il ne s'agit pas, pour ma part, de rappeler au monde contemporain, sur le ton d'une sorte de leçon académique que les antiquisants donnent volontiers, une notion qui est un peu classique, mais bien au contraire d'associer l'expérience antique au débat actuel et d'éprouver l'actualité d'un concept ancien adopté par le lexique contemporain. Une enquête du même type doit aussi, à mon avis, être menée avec le mot « démocratie ». Je crois qu'on aurait tous des surprises si on s'interrogeait sur le sens de la participation des DEM, c'est-à-dire des communes au pouvoir central, qu'est la démocratie. Il est aujourd'hui employé, me semble-t-il, comme le mot autochtonie, sans beaucoup de discernement. Alors, je n'y reviendrai pas, c'est vrai qu'il y a aussi une promotion, pas actuelle, je pense, mais qui est liée au XIXe siècle et à la Renaissance aussi, une sorte de promotion des concepts antiques, auréolé d'une certaine gloire, ou au moins d'une bonne réputation, qui en ferait des outils sains, des outils incontestables. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se défaire, je le dis d'autant plus volontiers, j'insiste, que c'est mon fonds de commerce principal, puisque cela vient de l'Antiquité. Alors, ce que j'ai proposé, et les réflexions que je vais vous proposer sont assez limitées. Il s'agit en fait d'intrusion dans le monde contemporain à partir d'une précision apportée au sens antique du mot autochtonie. Alors, du sens antique. Le mot autochtonie appartient donc au domaine des représentations grecques de l'ethnogénèse, c'est-à-dire de la naissance d'un peuple. De l'anthropogénèse aussi, on va le voir, mais surtout de l'ethnogénèse. Ça, c'est intéressant d'emblée, me semble-t-il, parce que ce n'est pas quelque chose qui renvoie à un premier homme un premier homme dont on livrerait là la nature de l'origine. Donc il renvoie d'emblée à une dimension communautaire, patriotique, nationale. Dans l'autochtonie ancienne, ce n'est pas la terre avec un T majuscule, c'est-à-dire immédiatement le nom propre d'une divinité, ni la terre sans majuscule, mais au sens global qu'on peut lui donner aujourd'hui, mais il s'agit d'une terre particulière qui est génitrice. Donc, d'emblée, l'autochtonie appartient à la dimension mythico-religieuse. Dans le miroir d'Hérodote, un livre que vous connaissez peut-être de François Hartog, qui est un petit peu ancien maintenant, mais qui là aussi fut un grand classique pour l'histoire de l'Antiquité, donc François Hartog estime que le nomadisme des Scythes chez Hérodote sert de contrepoint à l'autochtonie des Athéniens. D'un point de vue lexical et étymologique, l'autochtonie ne se présente pas comme une généalogie, véritablement, à partir d'un premier homme. En effet, le mot ne dit pas précisément la naissance, notion qui reste sous-entendue. Ça, c'est important dans la notion d'autochtonie. La naissance, il n'y a pas le génos, il n'y a pas la guénée dedans. L'origine n'est pas dite.
Indigène.
Voilà. Le mot plus clair, c'est indigène. Or, le grec dispose d'un mot gégénès qui dit littéralement ça, ce qu'on fait dire à l'autochtonie. Ce qu'on fait dire à l'autochtonie est dit en fait en grec par un autre mot qui exprime clairement l'origine, la génétique tellurique d'un personnage véritablement né de la terre. Un gégénès, c'est quelqu'un qui est produit par la terre, engendré par la terre. Or, ce n'est paradoxalement pas ce mot dont les Grecs s'emparent pour donner à l'idée d'autochtone une dimension mythico-historique et politique. Autochtone a sans doute aussi l'avantage de concerner le sol plus que la terre. Alors ça, c'est une petite distinction qu'il faut faire aussi, en désignant sans ambiguïté un territoire singulier grâce au pronom démonstratif « autos ». Ce mot contient aussi deux sous-entendus de taille quant au sens, c'est le lieu précis. Car on n'est pas autochtone sans attache à un territoire précis. On n'est pas autochtone hors sol. Et la naissance. Le second, c'est celui que je viens d'expliciter, c'est la naissance. Il faut aussi reconnaître que le sens littéral du mot n'est pas parfaitement clair. Alors, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas assez. C'est qu'on ne le comprend pas parfaitement bien. On construit, par exemple, très très bien, ou on comprend très très bien ce que peut être l'autocratéia, l'autocratie, ce que c'est qu'un autocrate, c'est quelqu'un dont le pouvoir, kratos, possède de lui-même, autos. Ktone, c'est plus difficile, il faudrait traduire par « je suis le sol moi-même, je suis moi-même le sol ». Bon, ce sens-là est un petit peu extravagant. Si l'adjectif, donc, pronom autos renvoie à la terre, il a un rôle démonstratif, c'est une autre façon de comprendre le mot, il est question de cette terre-là. Ça fait beaucoup de sens, sous-entendu, vous voyez, entre autos et ktone, les deux mots qui composent l'autochtonie. S'il renvoie à l'autochtone, cela signifie qu'il est lui-même la terre. Le substantif, autre chose importante, le substantif que nous avons utilisé, que Laurent a utilisé, et que j'utilise abondamment aussi, autochtonia n'existe pas en grec. Non plus que donc la notion générale. Donc vous voyez là déjà que, on y reviendra, on a fabriqué nous un concept à partir d'un adjectif. Alors ça vous paraîtra peut-être un petit peu excessivement naïf que de dire ça, mais c'est d'un point de vue linguistique et donc structurel extrêmement différent, un adjectif et un substantif. Chacun d'entre nous peut être qualifié par un adjectif, cet adjectif n'est pas extrapolé en direction du concept et donc du substantif qui a une valeur générale et dogmatique et idéale et théorique. Donc, à proprement parler, il n'y a pas d'autochtonie en pays grec, mais des peuples ou des individus autochtones, c'est-à-dire des exemples singuliers d'enracinement héroïque ou politique. Cela signifie qu'au fond, il ne saurait y avoir d'autochtonie, mais ni d'une autochtonie générique ou générale, mais des autochtonies singulières qui théoriquement sont incompatibles entre elles, et de singulières autochtonies qui se distinguent par leur mode, leur mythe respectif, parce que bien sûr tout ça s'inscrit dans des récits mythiques qui rapportent aussi. Un individu ou un peuple ne saurait être dit autochtone s'il n'est pas un aborigène du sol ou du territoire sur lequel il réside actuellement. C'est ça le sens que donnent les Grecs à ce mot. Le mythe autochtone est donc un récit établissant à la fois une origine géographique unique et une histoire strictement sédentaire marquée par la permanence du lieu de résidence, parce que l'on pourrait appeler un ancrage géographique ou un enracinement. Alors, autre chose, et il me reste combien de temps, c'est fini. Bon. Alors,
non. Donc, il y a une question.
C'est vrai,
j'ai dit. Le temps.
Bon, je vais prendre à peu près 20 minutes de plus. Donc on a fait en fait de l'autochtonie un mot essentialiste, on l'a essentialisé, on l'a transformé en théorie générale grecque de l'origine des hommes et des peuples. Alors qu'il y a un texte que j'ai mis dans le petit corpus qui est tout à fait intéressant, un texte très très classique de l'archéologie de Thucydide. Au début de la guerre du Péloponnèse, Thucydide raconte le peuplement de la Grèce. Alors, il mentionne incidemment l'origine autochtone des Athéniens, mais sans en faire trop. Il rapporte surtout que la grande majorité des Grecs, à part les Athéniens et les Arcadiens, qui estimaient être autochtones, la grande majorité des Grecs admet très bien ou reconstruit son histoire en plaçant la dynamique, une dynamique de peuplement, de colonisation, de déplacement, de mobilité, de migration, au cœur de ses origines. J'en veux pour preuve le mythe spartiate. Alors le mythe spartiate est un mythe racial en même temps. Hein, c'est pas, je ne suis pas en train d'opposer hein, une bonne origine et une mauvaise origine. Il y a des discours différents en Grèce ancienne qui ne sont pas coordonnés par les mêmes critères que nous. Nous ne les évaluons pas de la même manière. Le mythe spartiate est un mythe de conquête. Donc ce sont bien des étrangers qui ont conquis la Laconie, c'est ce qu'ils appellent le retour des Héraclides. Les descendants d'Héraclès reconquièrent une terre qui était la leur, sans doute, celle du Péloponnèse. Mais s'ils sont légitimes sur cette terre-là, c'est parce qu'ils sont vainqueurs. Ce n'est pas vraiment parce qu'ils ont une sorte d'autochtonie originelle qu'ils rappelleraient. Bon. Alors tout ça a été réétudié par Iran Malkin il y a quelques années et a subi un certain nombre de transformations, mais je crois que ce que je vous dis là reste quelque chose de valable. Alors, pour les Grecs, en effet, c'est pour ça que je vous ai donné un certain nombre de photocopies, vous avez accès à ces petits textes. L'une des grandes idées aussi des défenseurs de l'autochtonie ou de la réhabilitation de l'autochtonie dans l'Antiquité, pour en faire une sorte de théorie générale du peuplement, c'est de dire qu'il y a eu, la piste méthodologique et historiographique remonte loin, il y a eu une période. C'est ce que l'on appelait le matriarcat, au moins au XIXe siècle en Allemagne, une période de l'histoire de l'humanité où les hommes étaient soumis, je parlais un peu de ces aspects-là tout à l'heure à Attal, soumis à des femmes, c'était le pouvoir des femmes. Les femmes étaient au pouvoir lors de ce matriarcat, et que petit à petit, ces matriarcats, qui existaient à la fois dans l'imaginaire, c'est-à-dire que pour les tenants de cette théorie, lorsqu'existait un matriarcat, il existait aussi une déesse mère principale, qui est bien sûr la déesse terre, Gaïa, que l'on restitue donc, si on appartient à ce courant de pensée, c'est Maria Gimbuntas, par exemple, pour ceux qui ont eu des choses là-dessus, parce que Madame Gimbuntas a une certaine notoriété scientifique, donc vous pouvez tout à fait l'avoir rencontrée dans des lectures sérieuses, dans des colloques sérieux. Mais ça remonte encore une fois au XIXe siècle et c'est une pensée parfaitement masculine hein, au départ, bien entendu. On y reviendra. Mais si on se situe dans ce cadre de pensée, on a la succession chronologique suivante, une origine des peuples et une origine des religions qui place donc une société dominée par des femmes honorant principalement une déesse mère. Et ça, ça a eu un impact extrêmement fort sur les études sur la Méditerranée et en particulier la religion gréco-romaine. On a décidé que quand on ne savait pas parfaitement bien ce qui se passait à l'origine des grands sanctuaires comme Delphes ou Olympie, eh bien, on pouvait, à travers la documentation archéologique ou à travers la documentation épigraphique, parvenir à détecter quelque chose qui est de toute façon une évidence et qui était prévu avant même que l'on entame la recherche, qu'à l'origine, il y avait une déesse mère, une déesse terre, qui était honorée bien avant les divinités masculines. C'est-à-dire qu'on a essayé dans l'archéologie de retrouver ce schéma. Alors ce schéma-là a eu une importance très grande pour le développement, pour la réhabilitation de ce concept d'autochtonie qui, comme vous le voyez, un, n'existe pas, extrapolé au substantif, n'existe pas. Deux, il ne concerne que très peu de gens dans Méditerranée et en Grèce ancienne en particulier. Hein. C'est un mot grec, mais c'est un mot grec qui s'applique en gros aux Athéniens et aux Arcadiens. Encore plus, j'utilise un autre mot qui est palaïptone, c'est-à-dire palaï, ça veut dire ce qu'il y avait avant. Palaïa, c'est les Arcaïas, ce qui est ancien, ce qui est ancien. Bon, donc ça a peut-être un sens encore particulier, mais il y a quand même ptone dedans. Donc ils sont très peu nombreux, il a fallu, dans la recherche aussi, il y a une dame qui s'appelle Stella Georgoudi, qui travaille sur la religion grecque et romaine en ce moment et qui s'emploie à essayer de démonter ce mythe historiographique d'une origine féminine des grandes sociétés méditerranéennes et des grands panthéons méditerranéens. Dans le monde aussi de l'âge du bronze, il y a une thèse récente qui tord le cou à cette affaire-là et qui remplace d'ailleurs cette théorie par une autre qui n'a rien à voir avec ce dont on parle là, mais qui est intéressante, mais je vous la rapporte 20 secondes, c'est qu'à l'âge du bronze, manifestement, dans les sociétés méditerranéennes les plus anciennes, les divinités, bien au contraire, n'étaient ni proprement masculines, ni proprement féminines, elles n'étaient pas transgenres non plus, elles se disaient au masculin et au féminin. Pardon. Donc, ça c'est intéressant, parce que d'un point de vue religion, on promeut deux puissances, qui est en fait la même, c'est la même puissance, mais qui est dite au féminin, dite au masculin. Donc, c'est précisément pas un matriarcat, mais c'est quelque chose de plus intéressant qu'un renversement, simplement. Parce que l'invention de ce matriarcat, bien entendu, et on le voit bien dans l'usage de l'autochtonie actuellement dans le monde contemporain, est aussi une manière viriliste d'écarter les femmes du pouvoir. Ça, c'est quelque chose qu'a très très bien montré Nicole Loureau. On estime que comme il y eut un matriarcat, qu'il y eut un moment féminin dans l'histoire de l'humanité, que l'humanité progresse, naturellement, le moment féminin est marqué au sceau de l'archaïsme, par définition et au sens littéral du mot, c'est-à-dire quelque chose d'ancien et de primitif. Donc c'est une manière clairement de dire, c'est Nicole Loureau le prix presque dans ces termes-là, on remplace les Athéniennes par une grande déesse mère qui est la mère de tous les Athéniens. Et donc il y a une dévalorisation de la fonction même génitrice de chacune des femmes qui produisent des petits Athéniens et des petites Athéniennes. Et dans le discours autochtone, il y a, me semble-t-il, beaucoup ça. Alors, il y a cette dimension viriliste, il y a cette dimension... Alors, j'ajoute une dernière chose sur l'Antiquité, là aussi, pour tordre le cou, une dernière fois, à la validité, à la pertinence du concept d'autochtonie, c'est la vie de Platon. Dans un certain nombre de dialogues, Platon parle de l'autochtonie, mais quand il en parle vraiment, c'est me semble-t-il dans le Critias, hein, d'une manière un peu approfondie, il dit que c'est un pieux mensonge. C'est bien sûr un mensonge. C'est bien sûr une fiction mythique. Mais elle assure au moins la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est quoi? C'est l'acceptation que les hommes mènent les femmes, au sens grec, d'Agen, ils exercent une hégémonie, hein, ils conduisent les femmes, et d'autre part, qu'existe une classe sociale aristocratique à qui revient naturellement le pouvoir. Donc il s'agit, dans les deux cas, pour Platon, d'un mythe qui est parfaitement utile. utilitaire, hein, il s'agit de défendre l'état de la société, un état conservateur, on pourrait dire, de la société, parce que certaines sociétés, on pourrait y revenir, mais certaines sociétés grecques étaient bien sûr beaucoup plus avancées que ça. Donc, d'autres sources grecques se moquent, Aristophane à l'occasion, Antisthène aussi, qui est un philosophe critique, cynique avant la lettre, disons, se moque beaucoup de l'autochtonie et des Athéniens. Alors il dit, par exemple, en plaisantant, que les Athéniens ont ça en commun avec les Limas, que d'être autochtones. Donc, vous voyez que l'autochtonie n'est pas du tout un concept répandu et absolument respecté dans l'Antiquité. Donc il faut le, comment on dit quand on enlève une statue de son piédestal, il faut déboulonner. Ça c'est là. Destituer. Ou déstatifier. Voilà. Alors, il y a autre chose qui m'a intéressé et sur lequel je vais proposer quelques développements, mais là je finis. Hein. Voilà. C'est le rapport avec le discours sur très New Age sur la Terre aujourd'hui, hein, sur ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa, sur l'Internet, sur une sorte de couverture cérébrale de la Terre, et la Terre un organisme vivant, pratiquement déifié. On a l'impression de lire Hésiode dans le texte, hein, c'est-à-dire un texte archaïque sur la naissance du monde, sur la cosmologie. Alors, je ne suis pas en train de me moquer rapidement et méchamment de l'écologie, qui est parfaitement respectable, mais on atteint souvent une sorte d'éco-théologie, le mot assumé d'ailleurs par un certain nombre de ces tenants de la pensée New Age, qui, au fond, finit par resacraliser le rapport que nous pouvons entretenir. C'est-à-dire resacraliser, c'est-à-dire réessentialiser le rapport que nous pouvons entretenir avec la Terre. Alors, ce n'est pas un discours qui va, je dirais, en droite ligne vers une réhabilitation de l'autochtonie, c'est-à-dire de l'argument principal qui va contre les mobilités actuelles, qui va vers le renforcement des États, et avec tout cet horizon bibliographique et littéraire barésien. On a des textes que je cite de Barès sur la Terre, qui sont sur le sang, et tout ça se retrouve parfaitement dans le nazisme aussi. Bon, donc, le sang, la Terre, ces deux mots-là, hein, qui sont au fond du concept d'autochtonie, sont aujourd'hui restaurés dans des perspectives qui sont évidemment pas du tout souhaitables. Alors je ne dis pas que l'écothéologie ou que les écologues flirtent avec ce monde-là, mais ils jouent dans la géographie des idées actuelles, il joue un rôle qui n'est pas toujours celui qu'on attendrait d'eux, qui n'est pas toujours très progressiste, disons, qui va vers une réessentialisation du rapport avec la Terre. J'évoquais Pierre Rabhi, qui est un petit peu dans cette manière de penser-là, qu'il le veuille ou non, enfin, il est dans cette tendance-là. Il y a, me semble-t-il, là, une restauration de thèmes telluriques dont il faut se méfier. En gros, je crois qu'il faut mieux utiliser le terme d'autochtonie. Je sais que les sociologues l'utilisent beaucoup, on pourrait y revenir dans la discussion. Je pense qu'il faut s'en méfier. La déclaration des peuples autochtones aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, mais le mot, encore une fois, dans la déclaration, j'en ai une preuve, dans la déclaration sur les peuples autochtones de l'UNESCO, on rapproche autodétermination et autochtonie. Ça n'a rien à voir. L'autodétermination, on comprend très très bien ce que ça veut dire, c'est se déterminer soi-même. L'autochtonie, on ne comprend pas. C'est un mot opaque, hein. Et c'est un mot qui est historiquement très minoritaire dans l'Antiquité, et qu'il faut bien se garder, je dirais, de restaurer, parce qu'il peut se connecter à des choses contemporaines qui ne sont pas tout à fait dans la perspective de la déclaration sur les peuples autochtones, me semble-t-il, dans l'esprit. Merci.
Merci beaucoup, François.